l'œil sensible. Le magazine photo de Campus Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette première édition de L'œil sensible sur Campus Paris. Nous recevons aujourd'hui un photographe atypique, au parcours fulgurant, je veux parler de Gérard Rancinan. Bonjour Gérard Rancinan.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première édition. Et j'avais souhaité en fait vous recevoir pour plusieurs raisons que je vais citer dans le désordre. La première, c'est parce que vous étiez à Visa pour l'image, festival auquel je me suis rendu également, et vous aviez une double actualité, c'est-à-dire la présentation d'un très grand panneau de 12 mètres par 15 mètres, si je ne m'abuse, sur Hiroshima. Et en même temps, vous avez projeté une vidéo que vous avez réalisée avec Virginie Luc, on en parlera tout à l'heure dans l'émission. Autre actualité, c'est le portrait que fait Hubert Henrot de vous et de votre parcours dans la photographie à travers quelques années, dans un ouvrage dont on a déjà parlé sur Campus Paris qui s'appelle Le Monde dans les yeux, qui est un ouvrage vraiment passionnant. Et l'autre et la dernière raison pour laquelle je souhaitais vous rencontrer, c'est pour parler avec vous de cette pratique de la photographie que vous avez, qui prend de multiples formes et on a l'impression qu'elle va dans de multiples directions. Est-ce bien ça ?
C'est une actualité en effet avec Perpignan, différents projets qui nourrissent mon quotidien, mais voilà, ça c'était 4 jours à Perpignan, c'est plein de jours ailleurs à New York et d'où je reviens à l'instant à d'autres voyages qui se préparent, d'autres projets qui brillent au loin comme des phares que je dois atteindre, et puis c'est le livre d'Henrot aussi que j'appelle Monsieur Henrot parce que ça a été mon patron pendant 10 ans au moins, un peu plus, qui m'a donné une chance inouïe. Il y a eu peu de gens qui m'ont pas mal de gens qui m'ont poussé dans ce métier, mais il y en a deux particulièrement, et Henrot fait partie, et le deuxième, cet homme qui m'a donné, alors qu'il avait créé Sigma, toutes les chances possibles de réaliser mes rêves, quoi. Donc je lui dois beaucoup, et comme beaucoup de photographes lui doivent énormément, voilà. Et donc ce passage dans son livre m'a ému, m'a touché, et j'étais content d'être à côté de Gilles Caron, de Raymond Depardon, voilà.
Justement, je vais citer quelques lignes d'Henrot qui présente en fait, qui vous présente et donne cette définition en quelque sorte. Donc, Gérard Rancinan est petit mais il occupe tout l'espace. Imaginez un compromis de Don Quichotte et de Rastignac, la folie merveilleuse de l'un et l'ambition séductrice de l'autre. Il y a Gérard le génial, talentueux en diable, plein d'idées anticonformistes, amoureux des étoiles et galopant sus au moulin à vent. Et il y a Gérard l'ambitieux, rêvant de gloire tout en étudiant sciemment son parcours, prêt à tout sacrifier pour faire son métier comme il entend le faire. Un personnage qui, grâce à son père, baigne dans le monde de la presse depuis son enfance à Bordeaux.
Bah ouais, c'est très beau, je me reconnais totalement, je suis un enfant de la balle et je suis né au milieu des rotatives, d'un quotidien qui sortait tous les matins. La première photo que j'ai réalisée en tant que photographe à 18 ans, alors que j'étais apprenti pendant 3 ans, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, apprenti dans un labo à Sud-Ouest, au journal, et ma première photo a fait 6 colonnes à la une de Sud-Ouest.
Vous vous souvenez de cette première photo?
Je m'en souviens pas, elle me hante, elle est toujours là, et c'était la première, c'était la plus belle et la plus fraîche, et voilà, et je m'en souviens tout le temps, et comment un photographe qui débute dans ce métier, qui a tout le regard de ses pairs sur lui, fait 6 colonnes à la une du journal, 6 colonnes à la une d'un quotidien. C'était un banal accident de camion, d'un camion renversé sur le grand pont de Bordeaux, et parce que j'avais été nourri de d'autres photographes comme Michel André, comme Vincent Olivard, bien sûr, comme Georges Bernard, qui étaient des très grands photographes, qui étaient des hommes qui travaillaient en province, m'ont nourri de leur qualité, et cette photo, au demeurant sans intérêt au départ, parce que j'y ai mis toute mon énergie, a fait 6 colonnes à la une, et j'ai compris que quand on voulait, on pouvait.
C'est donc cette image qu'aujourd'hui vous conservez en mémoire, tout le temps.
Ouais, bien sûr. Oui, c'est ça me donne le frisson d'y penser, parce que c'est pas que la mémoire de la photo, c'est la mémoire des hommes qui m'ont porté qui m'ont accompagné, qui m'ont lâché le vélo à un moment donné, quoi.
Vous avez commencé très tôt dans le milieu de la photographie. Vous êtes, je crois que à l'âge de 15 ans à peu près, vous étiez laborantin, donc à
15
Sud-Ouest.
Ans, non, bien sûr. Oui, j'étais, mon père se désespérait des hautes études qui brillaient devant moi et je passais mon temps, même chez les jésuites à Sarlat, à dessiner des petites motos et à regarder par la fenêtre. Donc ils n'ont même pas supporté eux-mêmes, les jésuites.
On doit préciser pour les auditeurs que vous avez un t-shirt très éloquent concernant une certaine marque de moto, là.
Oui, oui,
non, pour laquelle d'ailleurs vous avez travaillé, on peut la retrouver sur votre site.
Je suis passionné de moto. Je suis passionné de moto, non pas parce que je. De roues, hein, mais de moto parce qu'en forme d'art, en forme de sculpture, en forme de. Voilà, oui, j'aime la moto parce que je trouve que c'est un objet qui fait qu'on corps, que l'homme est en équilibre, quoi.
Qui apporte beaucoup de rêves aussi.
Oui, oui, absolument, de rêves et qui on a encore une forme de risque quoi dans cette société infantilisée.
Alors pour continuer un petit peu votre parcours, je crois qu'à 18 ans, on dit de vous que vous êtes le plus jeune photojournaliste. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous commencez à travailler sur toutes sortes de sujets finalement. Le sport, couvrir les événements régionaux, etc.
Mais bien sûr, j'étais à Sud-Ouest, donc de 15 ans à 18 ans, j'ai pas fait de photos, enfin que pour moi. J'étais dans le labo, j'apprenais le tirage photo. Et mon chef de service, Vincent Olivard, n'a jamais voulu que je fasse de la photo avant que j'ai fait mes 3 ans d'apprentissage. Et donc c'était très rigoureux, je devais être en costume toute la journée. J'apprenais à développer, tirer des photos, ce qui a été une école absolument extraordinaire. Et à 18 ans, donc 3 ans après mon commencement, j'avais ma carte de presse, donc j'ai été un des plus jeunes journalistes en France. J'ai été le plus jeune journaliste en France pendant un petit peu de temps, à 18 ans pile, et j'ai ainsi parcouru ma région, fait les faits divers, couvert 5 matchs de rugby qui démarraient tous à 15h à 30 km de différence. Quand on sait que ça dure 1h30, il fallait pas traîner sur le bord de la du terrain pour faire la photo qu'allait faire soit la une, soit autre chose. Donc pendant des années, j'ai maîtrisé la rapidité, le news, l'actualité d'une manière incroyable. Et quand je suis arrivé à Paris et qu'on m'a demandé d'aller faire la Coupe du Monde de football pour Sigma, ça a été un jeu d'enfant, quoi.
Revenons un instant sur votre montée à Paris. Comment êtes-vous arrivé en fait dans la capitale? C'est Sigma qui vous appelle, je crois.
Oui, c'est-à-dire que j'étais... oui, c'est ça. Vous savez, dans un journal de province, on est donc en province, un peu loin de tout, surtout à cette époque-là, mais c'était, je me réalisais parfaitement. Je faisais des, moi, je suis d'un tempérament plutôt optimiste, hein, je me réalise partout où je suis. Mais bon, voilà, je faisais mes rêves, et puis c'est vrai que très vite, je me suis pris au jeu de la photographie, je me suis pris au jeu de la réalisation, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, tout ça poussé par des hommes formidables. Hein. Et puis un jour, il y a eu un événement incroyable, il y a eu les Basques de l'ETA qui ont fait en 73 sauter Carrero Blanco, et le journal n'a... Parce que trop renfermé sur lui-même, comme un journal de province, n'a pas réalisé à quel point c'est important. Ils ont fait une conférence de presse et un journaliste de Newsweek américain a demandé à un photographe pour l'accompagner parce qu'il était convoqué à cette conférence de presse totalement secrète. Et personne n'a voulu y aller. Ils ont dit, ah ben, on va envoyer le petit. Et le petit, c'était moi, je venais d'être photographe. Donc, et me voilà parti, cagoulé, en train de faire ça. C'était un scoop mondial. Et Sigma, qui démarrait en 73, m'a appelé et j'ai choisi Sigma plutôt que Gamma. À cette époque-là, parce que je trouvais que c'était plus moderne, c'était tout nouveau et le challenge était ambitieux. Je connaissais pas en route, mais ça m'intéressait. Et déjà, ça y est, je travaillais pour l'Amérique, quoi, je travaillais pour Paris, et donc ça a été extraordinaire. Hein.
Donc Sigma finalement vous demande de monter à Paris.
Quelques années après, mais entre-temps, le jeu était fait. J'étais avec Pierre Perrin, qui est un photographe formidable aussi, qui est un ami à moi de toujours, qui est comme un frère, et qui avec qui on a partagé beaucoup de temps dans le Sud-Ouest, dans notre journal tous les deux. Et à tous les deux, on rêvait de faire des photos pour Life Magazine. On rêvait d'être des photographes de Life, de Newsweek, de Time, de Paris Match. On rêvait de tout ça. Et on était au bistrot à Pau ou à Bordeaux. Et on se disait, on va faire ça, ça, ça et ça. Et puis pendant nos vacances, eh ben, on prenait nos appareils photo et on se payait eh ben, nos révolutions au Portugal, nos couronnements de Bocassa. Et on se mettait en compétition déjà avec nos propres moyens. Déjà, je produisais déjà donc, mes reportages. Et avec Pierre Perrin, on a rêvé ainsi. Et lui rentre à Gamma et moi à Sigma. Et voilà. Et j'ai en effet accepté l'invitation d'Hubert qui m'a proposé de rentrer à Paris. Ce qui a bouleversé mon père parce que quittant Sud-Ouest où où j'ai commencé à 15 ans, il y voyait déjà tout tracé mon parcours. J'aurais fini peut-être sous chef de service. Mais bon, j'ai fait un choix. Je suis parti à Paris.
Donc vous avez accepté finalement cette invitation et là vous avez passé 10 ans au sein de Sigma.
Oui, c'est ça, je pense, un peu plus parce que avec les premières années de 73, j'ai passé presque 15 ans dans Sigma et j'ai passé 15 ans avec dès les premiers 6 mois. Donc j'ai vu naître cette agence et j'en ai fait un tout petit peu partie même si j'ai pas été un fondateur de cette agence.
Et qu'a apporté pour vous justement cette agence dans votre travail, dans le développement de vos ambitions photographiques?
Tout m'était ouvert. Je suis tombé sur un homme absolument extraordinaire, Hubert Henrotte, qui me laissait vraiment absolument tout faire. C'est-à-dire que j'étais et ça lui a plu. Il a aimé ce côté rêveur, ce côté prêt à tout pour ça veut dire prêt à tout dans mes rêves, dans mes projets pour les réussir. J'ai ainsi moi-même accepté tout ce qu'il me proposait. Mais qui ne serait pas flatté à l'âge de 25 ans d'être envoyé sur un conflit international? Je suis allé 7 fois au Liban. J'ai fait des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde, mais le rêve était enclenché. Je veux dire, je vivais un rêve. Je travaillais avec les plus grands photographes, que ça soit Henri Bureau, que ça soit on parle de Marc Riboud, je l'ai rencontré en Chine. Mais c'est un rêve absolu, quoi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça.
Donc au bout d'un certain temps, la collaboration avec Sigma s'arrête sur un événement assez radical, d'après ce que raconte Henrotte, c'est-à-dire un ordre qu'on vous donne pour aller faire des photographies, quelqu'un qui ne vient pas ou qui n'accepte pas le rendez-vous, et qui ça se passe pas très bien, et puis vous recevez un courrier, visiblement, moi je résume un petit peu, et puis vous claquez la porte de Sigma.
Oui, disons que je m'entendais au mieux. Hein. J'étais vraiment un enfant gâté. J'avais les moyens que je voulais. Je faisais absolument ce que je voulais. D'ailleurs, des fois, avec excès et un peu de... on va pas parler de grosses têtes, mais un peu quand même. Et puis, bon, un jour, en effet, il y a eu... Mais c'est pas vraiment tout à fait ça qui a déclenché mon départ de Sigma. C'est vrai qu'il y a eu un peu... Ben, comme toute société, elle évolue, elle s'alourdit, elle devient plus compliquée. Il y a des effets de pouvoir qu'il n'y avait pas au début. Des anciens photographes deviennent rédacteurs en chef. Donc, ça devient compliqué. Il y a de la compétition entre nous. Bon, et puis moi, je m'imposais dans mon travail, je savais ce que je voulais. Et en effet, il y a eu ce petit problème où j'ai reçu une lettre recommandée d'un des rédacteurs en chef qui me dit que j'avais fait une faute professionnelle parce que j'avais de Kersozon, on m'avait traité de tout, alors que j'étais monté sur son bateau, qu'il avait 2 heures de retard. Donc c'était vraiment très impoli de sa part. Moi, d'être monté sur son bateau, je ne savais pas, je ne suis pas marin, je ne savais pas qu'il fallait pas monter sur un bateau sans l'autorisation du capitaine. Donc j'attendais sur le pont.
L'amiral, en ce qui le concerne.
L'amiral. Et il m'a traité de tout, assez goujat, un personnage cette fois-là en tout cas je le connais pas plus, mais qui avait été odieux avec moi, et donc je lui ai dit: écoutez monsieur, ramenez-moi à la gare si vous le permettez, ou je prends un taxi, si vous le voulez, ou je prends un taxi. Bon, je rentre à Paris sans photo, et là je me suis fait insulter alors que je rendais service le lendemain. Mais ça, c'est une petite histoire. L'histoire de Sigma, c'est qu'en définitive, mes projets prenaient de plus en plus de taille. J'avais envie de développer une autre manière de développer mon travail de magazine. Ça veut dire non plus simplement de raconter le monde tel qu'il se présentait à moi, d'être dicté. Et quand je dis dicté, c'est une réflexion que j'ai eue assez vite en faisant du news. Je me suis aperçu déjà très très tôt, vous voyez, on n'est pas dans cette époque médiatico-politique d'aujourd'hui, c'était un peu moins puissant, on était plus libre, on avait l'impression d'être plus libre en tout cas, mais déjà ça me dérangeait qu'on me dicte ce que je devais faire. photographier sur les news, sur les guerres et tout ça, parce qu'il y avait des places pour les photographes, il y avait, on nous montrait que ce qu'on avait envie de nous montrer, ça ne m'intéressait pas. Je voulais voir le monde autrement, je voulais le raconter à ma manière, je voulais être le filtre de mes contemporains, et donc j'ai raconté mon monde à moi, et Hubert Enroth, monsieur Enroth m'a suivi jusqu'au moment où l'ambition était compliquée, et puis j'ai quitté Sigma, j'ai un peu claqué la porte, c'est vrai, mais on est resté très amis. Hein.
Pour terminer sur ce premier point, y a-t-il selon vous une manière de découvrir la photographie ou de dire à quelqu'un de suivre un certain trajet pour devenir photographe ? Y a-t-il une réponse ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il faut faire une école ou pas vraiment ?
Bien sûr qu'il y a...
Parce que vous, on sent bien que vous êtes rentré tout de suite, que c'est le milieu de la presse qui vous a attrapé, puis vous avez suivi en fait, avec votre énergie et votre fougue...
Oui. Alors si on prend mon exemple, évidemment, moi j'ai que celui-ci. Hein, alors j'ai pas fait d'école de photojournalisme, j'ai raté deux fois mon CAP. Je suis pas vraiment un bon exemple. Hein, mais d'un autre côté, c'est la détermination, c'est le vouloir de raconter le monde, d'être ouvert, d'avoir les yeux grands ouverts, d'être curieux, d'être quand on veut être, qu'on veut être photographe, plombier ou pâtissier, l'idée c'est d'avoir une opinion assez haute de notre métier. Et puis de se dire que bon ben ce qu'on fait il vaut mieux bien le faire et puis s'y appliquer et donner le maximum de soi, je veux dire on n'a qu'une vie alors c'est pas sans contrainte, c'est pas sans difficulté par rapport à son entourage, c'est sûr, mais c'est comme ça aussi qu'on peut y arriver.
Nous allons en parler dans un instant, Gérard Rancinant. Auparavant, nous allons marquer une première pause musicale. Nous allons écouter un morceau de Flop qui s'appelle Dans le rétroviseur.
Je ne te cacherai pas qu'il était temps que je décampe. Je ne te cacherai pas qu'il était temps que je dégage. Quelques gouttes de sueur tracent une oblique sur ma tempe. Quelques rayons de bonheur, un arc de cercle à mon visage.
Dans le rétroviseur,
je vois la route qui défile.
Dans le rétroviseur,
je vois rétrécir la maison.
Dans le rétroviseur,
je vois la route qui défile. Et la vibration subtile de la ligne d'horizon. La vibration subtile de la ligne d'horizon.
Et la vibration subtile de la ligne d'horizon.
Et la vibration subtile de la ligne d'horizon. Et là-bas sur les bas-côtés, des poteaux rythment ma fuite. Là-bas sur les bas-côtés, je vois des câbles ondulés. Je ne te cacherai pas qu'il était temps que je décampe. Je ne te cacherai pas qu'il était temps que je me tire. Je ne te cacherai pas qu'il était temps que je décampe. Je ne te cacherai pas qu'il était temps que je me tire.
Dans le rétroviseur,
je vois la route qui défile.
Dans le rétroviseur,
je vois rétrécir la maison.
Dans le rétroviseur,
je vois la route qui défile. Et la vibration subtile de la ligne d'horizon.
Et la vibration subtile de la ligne d'horizon.
Et la vibration subtile de la ligne d'horizon. Mais comme le lieu s'éloigne et que s'estompe mon ivresse, oui, comme le lieu s'éloigne et la joie dont il est la cause, j'ai comme un pressentiment qui vient gâcher mon allégresse. J'ai comme un pressentiment d'avoir oublié quelque chose.
Dans le rétroviseur,
je vois la route qui défile.
Dans le rétroviseur,
je vois rétrécir la maison.
Dans le rétroviseur,
je vois la route qui défile. Et la vibration subtile de la ligne d'horizon.
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 Et la vibration subtile de la ligne d'horizon. La vibration subtile de la ligne d'horizon.
subtile de la ligne d'horizon.
Nous écoutions un morceau de Flop. Dans le rétroviseur, c'est un nouveau label qui s'appelle le label Bien. Pour avoir plus d'informations, contactez Campus Paris, bien évidemment, on aura des infos à vous donner. Gérard Rancinan, tout à l'heure, juste avant la pause musicale, vous parliez de votre parcours à Sigma. Vous avez quitté Sigma, maintenant vous êtes en indépendant, et ceci pour réaliser vos projets en fait. Quels sont les premiers projets que vous avez réalisés une fois que vous avez quitté l'agence? Je crois que vous avez créé une première structure et que ça n'a pas été un succès.
Ça a été un succès. Oui, non, c'est vrai. Mais comme toute structure qui s'arrête, on dit ah ben ça a été un échec. Non, pas parce que ça s'arrête ou qu'on est en difficulté que c'est un échec. Je veux dire, mais ça a été un véritable succès. Ça a été tellement un succès qu'on a, moi et mes camarades qui étaient associés, photographes, on avait créé quelque chose de très très performant. Puisqu'on a en plus failli racheter Sigma à une époque avec des personnages importants, Maxwell et compagnie à l'époque. Ça c'est pas trop dit dans le bouquin d'Hubert, puisqu'il était en effet lui-même, Hubert Enroth, involve dans cette histoire. Bon, non, le succès on l'a eu. On a toujours eu pas mal de succès. L'idée c'est qu'on a créé une boîte pour pouvoir développer nos projets, se donner les moyens de le faire. Bon, ce qui a été difficile, c'est de tout gérer. Mais moi, en tout cas, ceci mis à part, j'ai jamais arrêté de faire des photographies, de produire des reportages, et je me suis mis en effet à raconter. Mais j'avais commencé déjà à Sigma. Hein. C'est une prolongation.
Oui, c'est dans la continuité. Arrive à un moment donné finalement où vous vous donnez vous-même les moyens, et cette fois-ci à titre indépendant, de réaliser vos projets.
Parce que je me suis dit que de toute manière on peut pas attendre. Je veux dire, on peut pas attendre que quelqu'un vous paye quelque chose. La vie elle est faite d'ambition, de risque, elle est faite de prise de risque, de miser pour son propre avenir, de refaire sa vitrine de temps en temps. Je suis pas le seul à le faire. Je veux dire, mais je suis entre, sans prétention aucune, peut-être un des plus flamboyants, dans le sens où ça brille de mille feux, parce que c'est mon tempérament. Et puis mais disons que je suis peut-être pas le seul à le faire, mais c'est pas dans la coutume dans la coutumée des photographes que de produire leurs propres histoires. Moi tout de suite je me suis dit, si je veux gagner du temps, je suis obligé de produire mes propres histoires. Alors en avant, j'ai mis tous mes sous là-dedans.
Justement, quelles sont les premières histoires que vous avez entièrement produit vous-même?
J'ai commencé à produire un reportage qui s'appelait Les Rois sans Royaume. Mmh. J'ai commencé avec Hubert en route à Sigma à le produire. On a eu des petites difficultés. C'est à ce moment-là que j'avais quitté Sigma. Et j'ai été pendant quelques mois un peu perdu à Gamma, et je me suis aperçu que c'était pas mon monde et que j'y arrivais pas. Donc j'ai tout repris et je suis allé tout seul. J'ai monté une équipe, j'ai monté une structure avec une directrice de projet, des assistants, et on a fait tous ces rois et reines sans royaume dans le monde entier. Je vous parle d'une époque où il n'y avait même pas encore, au point de vue étant noir et blanc, où Paris Match faisait de la couleur et noir et blanc. Enfin bon, on voyait un monde où personne ne parlait des rois et des reines, quoi.
Donnez-nous quelques détails justement sur ces photographies, sur ce qu'elles racontent, les personnes, enfin, situer un petit peu en contexte en fait.
Mon idée à moi, c'était de, au lieu que l'on produise, qu'un photographe fasse trop de photos, et ça a toujours été chez moi la même chose. Je veux dire, je pense qu'on fait toujours trop de choses. On fait trop de photos, on regarde le monde avec... je ne dis pas qu'on mitraille, mais souvent on travaille trop. Alors qu'une photo, c'est comme un éditorial quoi, dans la presse écrite. On est éditorialiste. Et on doit, en une seule photo, en ce qui concerne mon travail en tout cas, raconter tout un univers, donner une ambiance, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas des portraits de gens, un seul portrait d'une personne qui raconterait son pays, etc., etc., ou son endroit, etc. Et donc j'ai travaillé, j'ai fait une seule photo du roi du Cachemire au Cachemire, de l'empereur du Brésil au Brésil, et c'était toujours des photos qui étaient une interprétation de ce que j'avais dans la tête par rapport à ces gens-là. C'est peut-être, je ne sais pas si tout ce que je dis est vrai, mais en tout cas c'est exact puisque c'est moi qui le dis.
Donc vous avez cette vérité finalement, votre discours est une vérité, un regard sur le
bien
monde.
Bien évidemment, je veux dire, je n'ai aucune autre prétention que de raconter ma propre histoire et l'histoire de mes contemporains, mais à travers mon filtre bien sûr.
Vous revendiquez de toute manière très vite cette subjectivité dans le regard.
Oh bah,
pour vous, la question du photojournaliste objectif, elle n'existe pas.
Ah bah, je change de trottoir, elle peut exister, il y a peut-être des photographes, et j'en entends beaucoup, beaucoup moins en ce moment, mais pendant des années, j'ai entendu ça, où il ne fallait pas toucher à une photo, où il ne fallait pas, enfin bon, peut-être, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas, parce que c'est mon tempérament aussi, je ne peux pas imaginer qu'une personne, quelle qu'elle soit, ne soit pas sensible à un moment donné par rapport à l'endroit où se trouve. C'est inhumain, c'est un filtre, être journaliste, c'est... Oui, alors dans ces cas-là, je suis à peu près tout à fait à l'opposé de l'école de journalisme, de ce qu'on apprend aux jeunes, etc. Là-dessus, j'ai une autre approche de ça, oui.
J'ai sur la table ici deux photographies que vous avez réalisées, une avec Ronaldo. Et une autre avec le roi d'Égypte, si je ne me trompe pas.
Non, avec Moubarak.
Avec Moubarak.
Mais la photocopie.
Qui est président.
Voilà, le président. Non, mais donc, il pourrait être roi. Pardon.
J'aimerais, Gérard Rancinan, que vous nous décriviez une des deux photos que vous choisissez pour qu'on comprenne bien votre style, en fait. Celui que vous venez de raconter, c'est-à-dire une photo, un homme en situation.
Ben, l'idée, je vais parler de Moubarak parce que Ronaldo, c'était plus un travail de. C'était un travail un petit peu compliqué. Non, Moubarak, c'est une demande que nous avions fait pour Life Magazine et pour Paris Match. On travaillait sur. Les présidents, un projet comme ça. Et donc, on avait demandé à plusieurs présidents de poser et d'être interviewés par Virginie Luc. Et donc, on m'a demandé ce que je voulais comme photo. Évidemment, moi, pour moi, c'est assez simple de parler des pyramides et de parler de l'Égypte, de cette continuité des chefs, et puis de ce personnage qui est quand même très. Vous parliez de roi, c'est presque un lapsus révélateur, c'est un empereur. Il est là, il règne, il est élu à je sais pas combien de pourcents, enfin, c'est bon. Et en même temps, voilà, donc je suis allé voir, on est allé voir son entourage qui nous a dit, vous n'y pensez même pas d'aller l'amener, vous faites une photo pendant que la journaliste fait l'interview. Alors j'ai dit oui, et avec Virginie, nous avons ouvert notre book, portfolio, et nous l'avons montré au président Moubarak, qui a dit, mais c'est formidable, je connais bien Castro, je connais bien Mitterrand, on les avait dans la boîte, déjà, dans le portfolio, et je lui ai dit, écoutez, c'est pour ça, monsieur le président, que ça serait formidable qu'on nous fassions une photo au pied des pyramides. Et il a trouvé l'idée absolument, évidemment, bien sûr.
Un nouveau pharaon, en quelque sorte.
Voilà, et donc, il a fait tout préparer pendant deux jours pour qu'on puisse faire cette photo. Alors la photo est un peu ratée, parce que, en définitive, l'angle est un peu prétentieux.
Il est plus grand que les pyramides. Hein.
Voilà, alors on m'a dit, oui, mais alors il est plus grand que les pyramides. Alors, plein de gens ont adoré ça. C'est vraiment un effet de... J'avais un problème, c'est que quand l'hélicoptère est arrivé en retard sur le shoot, le soleil tombait vraiment. Je ne pouvais plus me déplacer au point de vue sécurité. Donc mon ombre s'est allée devant moi et j'étais obligé de me baisser pour faire une contre-plongée, pour effacer mon ombre. Et ainsi, ça donnait un angle assez particulier à cette photo où il domine les pyramides. Mais quelque part, c'est un acte manqué.
On a le sentiment, Gérard Rancinan, qu'à travers vos photographies, vous recherchez une certaine universalité. En tout cas, la possibilité pour le maximum de personnes sur Terre de décrypter vos images tout de suite. Une immédiateté, en fait, de la lecture.
Ah ben absolument, moi je ne parce que je suis comme ça, j'ai besoin, je sais pas si j'ai raison, je sais pas, je ne me force pas, je veux dire, je raconte mes photos avec cette naïveté, cette insouciance parfois, voilà. Alors oui, parce que j'ai toujours pensé que à l'efficacité du regard, j'aime les choses simples, j'aime les sentiments directs, bon, évidemment, parfois, c'est un peu plus complexe, mais bon, est-ce qu'il faut tout laisser paraître? Est-ce qu'il faut être compliqué? Dire un mot doux, c'est dire un mot doux, quoi. Alors, il y a plein de gens beaucoup plus compliqués qui ont une vie formidable, qui écrivent des romans sublimes, des livres extraordinaires. Bon, oui, j'adore aussi, hein, mais je sais pas le faire, donc je m'adresse au plus grand nombre. Mais aussi mon école, je suis né dans un journal, je travaille que pour des grands magazines. Bon, avec ces gens-là, il faut pas être compliqué. Il faut que le message passe tout de suite. Vous avez, c'est comme à la radio. Vous avez tant de temps pour convaincre. Après, bon, voilà, c'est autre chose, quoi.
Est-ce que c'est important pour vous de sentir que les gens regardent vos images et qu'il y a un échange qui se crée de cette manière-là?
Mais je vous raconte une anecdote, c'est que d'abord pour moi, la presse, c'est la plus belle des galeries. J'expose dans des galeries.
Vous dites d'ailleurs que c'est votre musée.
C'est mon musée, c'est... Oui, parce que... Voilà, je vois des photographes autour de moi qui rêvent d'être photographes de presse. Alors, des photographes d'art, hein, ou des photographes de mode qui me disent « Mais oh, c'est incroyable, vous êtes partout, tout le monde vous lit, tout le monde vous regarde, etc. » Mais c'est pas moi d'abord qu'on regarde, c'est les gens que je photographie. C'est eux qui sont beaux. Moi, je n'existe que parce que je suis le technicien, l'ouvrier de ça. Mais je pense que quand un reportage, par exemple, on parlait d'Hiroshima pour parler du dernier reportage que j'ai publié,
on en parlera tout à l'heure.
Ou d'autres projets comme Les Rois sans Royaume ou Les Hommes de Dieu, etc. Quand on part avec Virginie Luc, avec qui je travaille depuis 15 ans et qui est... avec qui on partage tout ce voyage dans notre humanité. En effet, on raconte le monde... notre plus beau succès, c'est d'avoir 25 ou 30 magazines les plus prestigieux du monde, du Japon en Amérique du Sud, de Russie en Amérique, qui publient ce reportage sur des dizaines de pages. Quel plus beau musée, même si c'est parfois imparfait, si le papier est froissé. Mais j'ai l'habitude de ça.
Vous vouliez nous raconter une anecdote, justement ?
Sur
le fait que les gens voient vos images et qu'il y a une...
Oui, une anecdote extraordinaire, mais c'est par rapport à Hiroshima, parce que rarement...
Dans ces cas-là,
on en parlera tout à l'heure, mais vous allez voir, c'est rigolo. Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas. Moi, j'expose dans les galeries,
Vous étiez à la FIAC,
j'étais à la FIAC, on a eu un one-man show. Bon, c'était superbe, sur un projet qui était destiné à la presse. Notre galeriste en a fait... l'a proposé dans le monde de l'art. Donc, je vois les gens réagir par rapport à mes photos. Mais vous savez, c'est un peu comme au cinéma, et entre le théâtre et le cinéma. L'acteur de cinéma, il voit pas les gens applaudir dans la salle ou se barrer parce que c'est nul. Bon, ben, dans la presse, c'est un peu pareil. Alors, quand des fois, je peux... vous savez, dans l'avion, vous êtes dans l'avion, match vient de sortir, et puis, vous voyez un gars qui feuillette match dans l'avion, et d'un seul coup, il passe les pages, et puis, vous attendez, vous êtes au-dessus de lui, vous attendez, puis vous voyez que sur votre sujet, sur votre travail, il s'arrête un moment, il plisse les yeux... Je l'ai vu ça plusieurs fois, rarement, mais plusieurs fois. Bon, ben une fois, je vous le raconte tout à l'heure, je me suis levé et j'étais lui dire « ça vous a fait quoi de voir ça ?» Voilà. Et j'ai osé faire ça et voilà.
Racontez-le maintenant.
Parce que j'étais à Bordeaux, je prenais un café chez moi en terrasse. Hiroshima venait de sortir dans Match, ça faisait une quinzaine de pages. La mise en page était particulièrement belle en plus. Donc je vois un gars de mon âge en train de regarder Match en terrasse. Et il feuilletait toutes les pages. Je me suis dit, tiens, c'est le match où j'ai les photos de notre travail sur Hiroshima. Et puis je le vois et quand il ouvre la double page d'Hiroshima, je l'ai vu. Je l'ai vu avoir un... Il a plissé les sourcils, il a eu un petit recul, il est resté. Il a passé la page d'après, il est revenu sur la page d'avant. Et alors qu'il avait feuilleté tout le magazine d'une manière un peu rapide...
Comme on le fait tous, souvent.
Comme on le fait tous, bon. Et là, il s'est arrêté. Je me suis dit, j'y vais pas. Quelle honte d'y aller. Et je me suis levé, j'ai dit, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous venez de regarder ce travail sur Hiroshima? Qu'est-ce que ça vous a fait? Et le gars, surpris... me regarde et me dit mais non j'étais très ému, ça m'a montré le monde d'une manière différente, enfin le monde disons cet événement d'une manière différente, avec pudeur. Et puis il s'est retourné, mais pourquoi vous me demandez ça? Et ben je lui dis non, parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui fais les photos, et c'est pour ça que j'étais curieux, je m'excuse. Mais il me dit très bien, je vous félicite. Il était un peu basourdi, moi aussi un peu gêné, et ainsi j'ai pu voir, et voilà. Alors c'est peut-être une forme de d'être rassuré, autre chose, mais j'ai aimé ce moment, et puis voilà quoi, ça m'a fait plaisir.
Est-ce que cet échange que vous avez eu pour le coup avec un lecteur inattendu que vous avez croisé est plus important que les nombreux prix, par exemple, que vous avez reçus dans votre carrière? Vous avez reçu plusieurs fois le World Press Photo, etc.
Oui, j'ai beaucoup.
Je crois qu'à un moment donné, si mes sources sont bonnes, vous avez même dit que vous ne souhaitiez plus faire partie de ce type de sélection.
Absolument, mais j'en fais plus partie.
Et pour quelle...
J'ai reçu 5 fois le World Press. Ben parce que je suis pas tout à fait d'accord pour que le World Press ne soit donné qu'à des photographes qui photographient la misère du monde. Je veux dire, notre métier, ce n'est pas que ça. Notre métier, c'est aussi de raconter des joies, des bonheurs. C'est d'avoir une forme de liberté d'expression. Et je trouve qu'on est dans une société où on se gargarise de malheurs des autres en permanence, que le bonheur n'a pas le droit d'exister. Il y a même un professeur d'une école de journalisme qui a dîné chez moi un soir et qui me dit « Oui, mais Gérard, mais tu sais, ce qui est important dans le journalisme, c'est ce que j'apprends aux élèves, c'est que les trains qui arrivent à l'heure ne sont pas intéressants. » Ben, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'un train qui arrive à l'heure, c'est peut-être aussi intéressant parce qu'il peut être bondé de gens formidables. Un mariage, une joie, c'est aussi du journalisme. Je veux dire, ce qu'a fait Lartigue toute sa vie.
Jamais photographié de malheur. Hein,
non, mais toute sa vie est aussi important aujourd'hui qu'une guerre. Voilà. Et il a raconté une humanité. C'est du journalisme. On est tous journalistes. L'homme qui raconte par son album de famille son enfant qui grandit est autant photographe que Sebastião Salgado, qui photographie d'une manière absolument remarquable et extraordinaire, avec un dévouement total, la planète. C'est la même chose. À l'arrivée, on regardera le monde de la même manière.
Vous dites dans la préface en fait que vous avez, enfin que Caroline Carole a rédigé en fait pour Urban Jungle. Vous dites sans être cynique, je n'ai trouvé que cela d'intéressant, raconter l'homme.
Mais oui, pour moi oui. Alors il y a sûrement des photographes qui racontent magnifiquement bien les paysages, les paysages marins, les vues du ciel, etc., etc. Yann Arthus Bertrand le fait d'une manière remarquable et à quel point ça plaît, bien sûr. Non, moi l'homme m'intéresse parce que c'est mon contemporain. En regardant l'homme, je me regarde. En regardant l'humanité, je regarde l'humanité autour de moi. J'apprends des choses. Je suis surpris. Et en définitive, ça me rend modeste. Oui, l'homme m'intéresse parce que je trouve que son déplacement, son évolution, son intrigue, ce labyrinthe me plaît et j'aime me promener dans ce labyrinthe.
Nous allons reprendre notre entretien, Gérard Rancinan, d'ici quelques instants. Nous allons maintenant écouter un morceau de Charlie Haddon, musique. Adagio, un très beau morceau de Charlie Haddon, publié sur un label qui s'appelle Not In Our Name, avec un groupe Libération Musique Orchestra. Gérard Rancinan, nous reprenons notre entretien et j'aimerais parler avec vous d'un très beau livre que vous avez publié chez La Martinière qui s'appelle Urban Jungle. Alors je vous laisse le présenter en quelques mots rapides. C'est un livre déjà qui a un volume important, une taille importante.
Oui, j'aime les beaux objets, donc il faut que chaque livre, d'abord, avant de l'ouvrir, soit beau parce que c'est un bel objet. D'abord, j'en fais peu des livres. Je suis un photographe qui fait peu de livres et chaque fois, il faut que ça soit un bel objet. Je suis déçu quand, si jamais, je pourrais pas faire un livre qui ne me ressemble pas. Donc, je m'investis terriblement dans mes livres, hein, c'est-à-dire que je participe à la mise en page, tout ça. Urban Jungle, c'est un projet assez étonnant. Je revenais du Japon, on faisait des grands personnages. Mon travail, c'est toujours de croiser des hommes et des femmes et des hommes qui marquent notre société, qui guident un peu par leur travail, leurs œuvres, leur action, notre société. C'est Desmond Tutu, c'est Dalai Lama, c'est Fidel Castro, c'est ça.
Donc, c'est les grands hommes de l'humanité.
C'est les grands hommes de l'humanité. C'est tout mon travail depuis des années de rencontrer ça. C'est le fondateur d'Amnesty International. Enfin bon, bref.
Et tout d'un coup, vous changez d'angle.
Oui, je me suis dit, mais pourquoi on ne regarderait pas le monde d'une manière différente? On va arriver à l'an 2000. Et comment pour regarder l'humanité? Alors, avec mon assistant, avec Caroline, on était dans le bus qui nous amenait à l'aéroport de Tokyo. On était bien fatigués. Je dis, mais ça serait bien. Mais alors, on essaie de trouver une idée. Alors, on parlait de certaines idées. Ça ressemblait à Salgado. Il y en a une qui ressemblait à Arthus Bertrand. Enfin, c'était terrible. Je me suis dit, mais comment je peux pas rentrer là-dedans? Je vais être en concurrence. Je vais être en concurrence avec des ténors de la catégorie. Donc, c'était dangereux. Non. Et puis, je me suis dit, mais la plus belle des choses, c'est d'aller à l'opposé de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire de voir ces hommes. Qu'est-ce qui a changé dans notre société? Je regardais autour de moi. Je voyais des avions décoller partout. Tokyo en plus. Des voitures circuler. Des bus, machin. Les autoroutes, etc. Puis, je me suis dit, mais tout a commencé avec rien. Il y a eu des petits chemins, des traces dans l'herbe. On fait des chemins, ces chemins, on fait des routes, ces routes, c'est highway. On a traversé les océans en bateau, en immense bateau, en moteur, et puis en avion. Et aujourd'hui, tout se mélange, etc. Une seule chose me paraît ne pas avoir peut-être vraiment changé, c'est l'état de l'homme, l'humanité, cette forme de corps humain. Et donc j'ai publié cinq. Nous voilà partis dans un projet complètement fou qu'on a produit nous-mêmes, où on a parcouru 5 mégapoles.
On va les citer, il s'agit de Paris, Tokyo, New
Berlin,
York,
ouais.
Londres.
Même si Berlin n'est pas une mégapole, mais enfin bon, voilà. 5 endroits complètement différents, et nous avons passé des petites annonces dans des quotidiens, Libération, le Village Voice, Guardian.
Les textes justement de ces petites annonces, Gérard Rancinan?
Parce qu'il fallait pas fouler les gens, et surtout qu'on a été censuré aux États-Unis parce qu'on est passé dans la rubrique porno du Village Voice, parce qu'on demandait des gens nus. C'était pour témoigner pour l'an 2000, nous recherchons des familles, des gens qui voudraient poser nus pour un photographe, etc. Et ainsi, nous avons loué des studios. Et ces annonces étant passées, nous attendions les gens de telle date à telle date à New York. Alors on a eu la queue chez à New York, partout on a eu des gens qui venaient en masse. Mais des familles, mais des couples, des gens tout seuls, des gens qui avaient jamais posé nu, des gens qui avaient une forte habitude de poser nu, c'était assez incroyable. Et même au Japon, c'était incroyable. Et des gens venaient, et moi j'étais installé dans mon studio. Caroline leur expliquait le projet, et moi je ne leur demandais jamais rien. Ils arrivaient devant l'appareil photo, ils étaient devant un fond blanc, c'est-à-dire que c'était le début de la photographie, hein, il n'y avait pas aucun effet, il y avait simplement une flash pour éclairer. Ils se déshabillaient et ils me regardaient, ils attendaient que je leur dise quelque chose. Et avant que je leur parle, j'appuyais. Voilà. Et donc j'ai eu une authenticité du regard. Alors ces photos sont mal habiles, elles sont mal... c'est pas des photos esthétiques, c'est des photos... Mais à l'état brut et
très grande simplicité, un dénuement total à la fois de la technique et à la fois de
l'être.
Ah oui,
totalement, et sans parole, je veux dire, j'ai pas demandé à faire des mises en scène. Et les gens, alors certains étaient timides, d'autres tout de suite bondissaient sur le truc, d'autres s'embrassaient, des familles se tenaient, d'autres se protégeaient le zizi, enfin c'était assez étonnant, et puis d'autres étaient tout rouges, enfin, et après je les remerciais, et puis voilà, et c'était assez drôle parce que, et à la fois aussi très émouvant, et je me suis aperçu une chose extraordinaire, c'est que chaque pays avait ses différences. On voyait une mixité en France, des couples, ça. En Amérique, c'était le culte du corps. Au Japon, il y avait une grande timidité, etc. À Berlin, il s'exprimait totalement, des tatous, c'était hallucinant. On retrouvait chaque culture, mais surtout sur le corps. Sur le corps, on voyait le parcours du personnage. Et ça, c'était
une histoire, en fait.
Mais bien sûr, j'ai entendu un idiot un jour, qui était très intelligent d'ailleurs, brillant, je ne me souviens plus de son nom, mais je ne le citerai pas, même si l'on se souvenait, mais qui a dit oui, quand tout le monde est nu, on est tous égaux. Mais pas du tout! Pas du tout! Au contraire, on a des différences terribles, on a l'usure de la vie. Un homme qui a souffert parce qu'il est dans la rue pendant des heures et des années, on le voit sur son corps. Une fille magnifique qui a eu. Enfin bon, on voit à chaque fois l'existence, on voit sur la peau le parcours du. Comme un arbre.
Alors, parlez-nous un petit peu du projet Urban Jungle, puisque vous réalisez les prises de vue. Le projet, c'est de faire un livre tout de suite.
Le projet, c'était de faire un travail pour. C'était un livre tout de suite, mais on n'avait pas d'éditeur. On est parti comme ça. Vraiment, on a fait le tour du monde, on a entièrement tout financé.
Ce qui est assez fréquent chez vous, je crois.
C'est à 95% du temps comme ça. On part sur des coups de tête et sur des idées. On part à 3, 4, partout dans le monde. On loue des studios. Vous imaginez ce que ça peut coûter. Et après, on s'est dit comment le rentabiliser, ne pas perdre d'argent, parce qu'on ne pourra continuer que si on ramasse un peu d'argent. Donc on le propose à des magazines. Ce sujet a particulièrement plu à Paris Match, qui nous a dit mais c'est génial pour l'an 2000 de voir l'homme comme ça, l'homme nu. Et on est allé voir de la Martinière, l'éditeur de fameux éditeur français, et Hervé, que je connaissais parce qu'il avait édité il y a 20 ans un autre livre que j'avais réalisé, beaucoup moins polémique, hein, a vu les photos et a eu un élan incroyable de courage. C'est un homme qui est capable de ça, de coup de cœur fou. Et Hervé de la Martinière m'a dit on le fait. Et je lui ai dit oui, mais je veux un gros livre. Il m'a dit on le fait. Et je veux cette photo. J'avais déjà la photo de couverture qui était l'homme nu avec ses chaussures et on lui voyait la zézette, quoi. Et on dit comme ça maintenant? Non, on dit plus comme ça, je suis vieux. Hein.
En général, la zézette, c'est plutôt féminin.
Ah merde. Bon, bah ouais, voilà.
Alors, c'est pas grave.
On lui voyait le zizi. Voilà. Et donc, c'était un black magnifique. Et évidemment, en faisant ça, de la Martinière savait qu'on n'allait pas aller voir, on n'allait pas être exposé ou du moins vendu dans les supermarchés. Il savait que certaines librairies refuseraient de les mettre en vitrine.
Bien sûr.
Je l'ai vu chez Virgin, où ils ont tourné le livre. Pas tous les Virgin, hein, mais Virgin Bordeaux, j'y allais tout le temps parce que j'ai ma maison là-bas, et chaque fois je le remettais à l'endroit, chaque fois que j'y allais, et chaque fois il le remettait à l'envers des minutes après. Donc ça dépendait, c'est pas Virgin, hein, ça dépendait du vendeur ou du responsable du rayon. Mais pour vous dire quel. Et puis d'autres librairies qui le mettaient en devanture, qui l'exposaient, et voilà. Et de la Martinière a été très courageux de faire ça, parce que ça coûte cher de faire un livre, il s'est investi. Et c'est un livre qui est devenu, m'a-t-on dit, une forme de petite référence. Dans les écoles de photo, dans les écoles d'art, dans les écoles de design, par sa simplicité, tout ça. Mais malheureusement, parce qu'il y a eu un bémol terrible dans ce livre, c'est que nous sommes sortis le même jour et en même temps que La Terre vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand, qui est arrivé avec 200 000 exemplaires ou 120 000 exemplaires dans les librairies, et mon livre à côté, malheureusement, et heureusement, c'est un beau score, c'est vendu à 3 000 ou 3 500 exemplaires sur 4 000 tirés, mais ce qui a représenté très très peu par rapport au succès incroyable de Yann, qui... Voilà, donc, je ne l'en veux pas. Mais je lui ai déjà dit qu'il fallait qu'il me prévienne quand il faisait un livre. Maintenant, je ne sortirai pas en même temps que lui.
Souhaitons que Yann Arthus-Bertrand écoute cette émission et qu'il entende, Gérard Rancinan, votre message.
C'est un ami, il n'y a pas de souci.
J'imagine que vous lui avez déjà dit.
Ouais.
Donc, à travers ce projet Urban Jungle, on se rend bien compte que vous travaillez à la fois avec, bien évidemment, des assistants, maquilleurs, etc., mais aussi avec deux personnes, notamment, qui participent beaucoup à la mise en forme des projets et qui rédigent des textes, ou qui sont très proches. Je parle de Virginie Luc, bien sûr, pas sur Urban Jungle, mais où c'est Caroline Carole avec qui vous avez travaillé.
Voilà,
c'est important pour vous, cette collaboration avec une équipe?
C'est essentiel. Moi, je veux dire, pour moi, c'est un partage. Je travaille avec Virginie Luc depuis... nous travaillons ensemble depuis une quinzaine d'années. Caroline depuis 7-8 ans. Et ce sont des journalistes, ce sont des gens qui écrivent des livres, qui... Qui font un travail absolument remarquable. Elles interviewent Virginie Luc ou Caroline, interviewent tous les personnages évidemment que nous photographions. Donc ce sont peut-être les journalistes au monde qui ont vu presque le plus de qui ont interviewé les plus grandes personnalités du monde. Je veux dire, bon, c'est assez étonnant. En plus, elles produisent des livres. Ce sont des gens tout à fait brillants qui me remplissent la tête de projets, de choses magnifiques. Les idées viennent souvent de nous trois, mais aussi de chacun de nous à chaque fois, et nous essayons ensemble de les concrétiser. Elles ont du courage parce que elles coproduisent les sujets aussi avec nous tous ensemble, et ensemble on prend tous les risques. C'est un peu paternaliste, c'est une forme de famille. En tout cas, on est ensemble dans les difficultés, dans les bonheurs, et voilà, on partage un moment, on partage une vie, quoi. Je veux dire, c'est pas simplement des collaboratrices. C'est surtout quand on fait ce qu'on fait, quand on fait notre travail, qu'on va à la rencontre des gens différents, pendant 2 ans de notre vie, on travaille avec des gens qui sont nés avec des différences physiques, on s'immerge tout le temps là-dedans, complètement, on laisse une peau, quoi. C'est nous aussi, c'est notre vie. Donc, chaque fois que je fais des reportages ou qu'on fait des reportages ensemble tous, on y laisse quelque chose de nous. Je veux dire, on regarde pas le monde à travers une vitre. C'est là où l'objectivité du photojournalisme revient. On est totalement involved dans ce qu'on raconte. On n'est pas partisan. On est simplement involved. On fait partie de notre histoire. C'est notre histoire que nous racontons.
Vous revendiquez pleinement finalement cette implication, celle de vos collaboratrices et de vous-même dans ces travaux.
Ah ben complètement, je veux dire, on ne pourrait pas le faire.
On en parlait tout à l'heure par rapport au filtre que vous évoquiez, que vous regardiez la réalité avec votre propre filtre. Et là, ce que vous nous dites aussi maintenant, c'est que finalement, aucun des projets que vous avez réalisés ne vous ont laissé insensible. Ce sont des projets qui vous ont laissé des marques et qui vous ont parfois peut-être perturbé ou choqué peut-être.
Transformé, c'est on le vit totalement. Je veux dire, avec Virginie, on a fait des kilomètres et des kilomètres sans se parler, après avoir fait des photos absolument incroyables ou des interviews incroyables sur des gens formidables qui nous ont enrichis d'une manière hallucinante. C'est sûr qu'on est totalement. Moi, je ne fais ce métier que parce que je vis ce que je fais. Encore une fois, je ne suis pas au balcon de notre monde. Je suis dans ma société, je suis dans mes contemporains. C'est ma grande joie. Ma grande joie, c'est de partager un moment que Virginie initie avec Opalka, un grand artiste. On décide de partir 3 jours voir Rauschenberg, Bob Rauschenberg à Captiva. On va passer 3 jours chez Rauschenberg, mais on va tout aussi bien passer du temps à photographier des gens atteints de la lèpre, ou des sujets beaucoup plus entre guillemets graves, quoi. Donc on n'est pas insensible, on sort de là différent, on a laissé une peau.
Justement, Gérard Rancinant, avant de continuer cet entretien, cette fois-ci pour le coup de vraiment parler de votre projet Hiroshima, celui que vous avez réalisé avec Virginie Luc, nous allons écouter une plage musicale, un morceau de Robert Wyatt dont je donnerai le titre juste après. Thank you. reprenons avec Gérard Rancinant notre entretien. On est toujours bien évidemment sur Campus Paris. C'était un morceau de Robert Wyatt intitulé Hiroshima, Nagasaki. Un morceau que nous n'avons pas choisi au hasard, Gérard Rancinant, puisque vous avez, on en parlait tout à l'heure, présenté à Perpignan un très grand panneau qui parle des personnes qui ont été irradiées en fait. Et j'aimerais que vous nous disiez, malheureusement en quelques minutes, il ne nous reste que 4 minutes pour l'émission, un petit peu comment ce projet est né, ce que, et la manière dont vous l'avez monté, ce que vous en avez vous-même ressenti aussi.
Ben, c'est très simple, hein. Virginie Luc est arrivée un matin et m'a dit voilà, il va y avoir les 60 ans de la commémoration d'Hiroshima, de cet événement. Et on a travaillé là-dessus, elle m'a proposé ça. Évidemment, j'étais un peu, j'étais pas un peu, beaucoup même sceptique sur le projet, les commémorations, tout ça, ça me fait un peu peur. En plus, on sortit d'une histoire très dure, de plusieurs reportage très difficile, donc ça m'ennuyait un peu. Et puis en discutant, elle m'a convaincu que c'était peut-être pas qu'une commémoration, mais aussi le début de quelque chose. Et ça m'a éclairé et je me suis dit mais pourquoi pas. Et en effet, nous sommes allés là-bas, nous avons demandé à rencontrer, et nous avons rencontré 70 Ibakusha, c'est-à-dire des hommes qui ont été sous la bombe atomique. Et eux nous ont parlé, bien sûr, de leurs souvenirs, de ce qu'ils ont vu, de cette lumière incroyable, mais aussi ils nous ont parlé de ce qui leur en restait, et surtout on a eu un regard sur le futur de ça. On n'a pas voulu faire une commémoration de plus. On a simplement voulu, avec Hiroshima, parler du début de la fin, du commencement de la fin. C'était la première fois que l'homme avait enfin trouvé le moyen du suicide collectif. L'homme a cherché énormément à se détruire tout le temps, il cherche toujours. Et là, enfin, il y arrivait. Et c'était les premiers à vivre ça. Et c'est cette expérience qui nous a plu et qui nous a permis d'essayer aussi de défendre notre opinion là-dessus avec eux. Voilà. Mais ça a été ce travail-là qui a été d'une émotion immense, de ces hommes qui ont vu cette lumière du diable. Et c'est un peu aussi la synthèse de tout notre travail depuis des années. Ça veut dire de montrer une forme d'humanité. C'est pas de l'actualité, c'est simplement une actualité de notre époque, de notre société, de notre humanité, capable du meilleur, mais aussi capable du pire. Et pour vous aller vite, pour résumer ça, ce qui m'a le plus touché, moi, alors je faisais des photos, j'ai vu un homme en pleurs qui avait 83 ans, c'est très émouvant, à qui il manquait des doigts, qu'il avait laissé évidemment, entre autres, à Hiroshima, pendant l'éclair et la bombe. Eh bien, cet homme nous a dit, vous savez, je traverse très souvent le Japon, je raconte aux étudiants ce qui s'est passé, et j'essaye d'éclairer, et là, il s'est mis à pleurer, il m'a dit, et vous savez, quand je lève la tête, eh bien, ils dorment tous. Eh bien, c'est ce sommeil qui va nous enterrer. Et c'est nous, notre travail, à Virginie Luc, à Gérard Rancinant, à tous les photographes de presse, à toute cette responsabilité que nous avons, à justement empêcher que les hommes s'endorment. On veut nous endormir. Je fais pas un slogan, mais on veut nous endormir. Dans une société où on nous infantilise, où on veut que les médias endorment dans un bruit terrible. Mais c'est pas ça, le problème. Le problème, c'est qu'il faut raconter le monde tel qu'il est. Et il faut le raconter avec sincérité. Et c'est ce que nous essayons de faire avec Virginie Luc, Caroline Gaudriot, moi-même, Paris Match et plein de magazines qui nous suivent et qui sont courageux de le faire encore.
J'aimerais très rapidement, je vais faire sauter en quelque sorte une rubrique que je voulais diffuser, mais tant mieux, notre entretien a été vraiment dense, Gérard Rancinant. Mais je voulais laisser la parole en conclusion à Virginie Luc qui dit en fait, en postface, dans Art à mort, tu vois, il nous reste encore des choses à inventer, n'ayons pas peur. On a l'impression qu'elle vous rassure, en même temps elle vous donne de l'énergie pour continuer dans vos projets.
Mais bien sûr, c'est sans elle, je ne serais pas ce que je suis, et je lui dois beaucoup, elle le sait, voilà, et on s'aime.
Gérard Rancinant, merci d'avoir été le premier témoin de cette édition de L'Œil Sensible. Je voudrais vraiment vous remercier, remercier également Ilke à la technique, également remercier Julius qui a choisi les programmations musicales, toutes les plages, notamment celles que vous avez écoutées. On vous retrouve bien évidemment le 27 novembre, et cette fois-ci notre invité sera Marc Ribou.